Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
C'est la rentrée, nous sommes le mardi 7 octobre et nous nous retrouvons pour discuter autour des actualités brûlantes et de l'avenir de notre société, et ce d'un point de vue local, national et international. Et ce toujours sur Fréquence 7, la radio toujours décalée, pas pareille et différente. Bonjour tout le monde, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Bonjour.
Très heureuse de vous retrouver. Alors, cette rentrée, elle est particulièrement chaude, pour ne pas dire tempétueuse, à tout point de vue. En effet, sur le plan politique et social, la rentrée est très, 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 mais alors très agitée. Censure du Premier ministre François Bayrou et de son budget ultra-austéritaire le 8 septembre, qui a conduit à une nomination ultra-rapide dès le lendemain du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, suivi de mobilisations sociales et politiques massives les 10 et 18 septembre, puis le 2 octobre. Des nouvelles toutes fraîches qui viennent de tomber puisque ce Premier ministre a présenté déjà sa démission. Des mobilisations partout donc, sur le territoire et dans le monde, pour dénoncer aussi le génocide à Gaza et en solidarité avec la flottille de plus d'une quarantaine de bateaux qui, je le rappelle, visaient à acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et à briser le blocus de l'enclave palestinienne. Mobilisation donc pour exiger la libération sans condition des équipages kidnappés par Israël dans les eaux internationales. Donc la France et ses citoyens s'élèvent contre des décisions arbitraires, immorales, qui piétinent, c'est le moins qu'on puisse dire, la démocratie. Alors, ces mobilisations sociales sont-elles le symptôme d'une 5e République à bout de souffle ? S'agit-il d'une crise, de régime politique et donc d'un besoin pressant de changer le fonctionnement des institutions et de passer à une 6e République ? S'agit-il d'une crise économique liée à l'explosion des inégalités économiques rendues possibles par les budgets austéritaires, le tout faisant exploser la pauvreté ? Nous avons interviewé Clément, un jeune militant insoumis, à ce sujet.
Oui, c'est clair que les mobilisations sont en lien direct avec la fin de la 5e République. C'est quelque chose que j'ai observé personnellement en tant que militant dans la population qui n'est justement d'habitude pas très engagée, qui va voter à chaque fois qu'on lui demande, mais qui ne s'engage pas en dehors des élections. Et là où avant on avait un petit peu, on va dire, un flou de ce qui se passe au niveau national et local, là on a une vraie prise de conscience politique des gens et de comment ils s'aperçoivent en fait qu'il y a énormément de problèmes au sein même des institutions de la 5e République, notamment le non-respect d'Emmanuel Macron pour les résultats des élections législatives, mais on peut même remonter avant ça au non-respect du référendum sur l'Europe en 2005. Donc tout ça, ça s'accumule et fait que même aujourd'hui, vous avez des partis politiques. On a entendu récemment Gabriel Attal parler de créer une nouvelle république. C'est-à-dire que même eux commencent à voir ce changement et vont peut-être essayer de proposer leur projet qui, je pense, n'aura aucun point commun entre la 6e République que nous proposons. Cette question dans la population est clairement d'actualité.
Alors oui, Clément, je crois qu'il a tout à fait raison et je partage son constat selon lequel effectivement il y a vraiment une prise de conscience politique par les citoyens français des limites des institutions de la 5e République et en particulier aussi chez les jeunes. Le premier sursaut, effectivement, qui avait déjà donné lieu d'ailleurs à des débats pour proposer un passage à une 6e République, parce que ça fait quand même longtemps que des universitaires et des politiques discutent là-dessus, c'est effectivement le non-respect du résultat du référendum sur l'Europe de 2005. Je rappelle que ce référendum avait donné 55% de non et que cela n'a pas du tout été entendu. Et enfin, le deuxième moment là, de ce non-respect de la démocratie, en juillet 2024, lorsque Macron n'a pas respecté le résultat du vote des législatives, soit que le nouveau Front populaire ait gagné, a remporté ces élections, a vraiment été vécu comme une sorte d'électrochoc par une bonne partie de la population française, au point où, comme l'a rappelé Clément, que des responsables politiques comme Gabriel Attal, qui n'est pourtant pas un grand défenseur du nouveau Front populaire, estime qu'il faut parler de nouvelle république. Mais je pense que Gabriel Attal n'a pas la même conception justement de la nouvelle république à laquelle nous aspirons, précisément parce que je ne pense pas que Gabriel Attal souhaite que les citoyens se mêlent de leurs affaires politiques. Alors on va faire un tout petit rappel de la création de la Ve République et expliquer pourquoi elle a forcément conduit à la responsabilité du président de la République, et on en a sous les yeux justement, manifestement, la preuve, et partant donc une défiance des citoyens. Alors je le dis tout de suite, pour moi, après de nombreuses années de résignation des citoyens, je crois vraiment en un véritable espoir de changement, parce qu'il y a une vraie colère liée à la souffrance des gens, elle-même liée à la politique d'austérité d'Emmanuel Macron. Et d'autre part, et ça j'y tiens beaucoup, d'autre part, il y a le surgissement d'une fine conscience politique et géopolitique chez les jeunes, dont le logiciel de pensée n'est plus du tout celui de leurs aînés. C'est-à-dire que les nouvelles générations veulent vraiment être entendues. Donc, la Ve République, elle est née de quoi ? Eh bien, elle est née d'un coup d'État en 1958, et sa constitution n'a pas été l'œuvre d'une assemblée constituante. Et voilà, dès l'origine, le ver est dans le fruit, si je puis dire. Alors pourquoi ? Eh bien, précisément parce qu'il y a organisation de la circulation du pouvoir de manière verticale, de haut en bas. Et donc du coup, ça a produit un statut du président irresponsable devant le peuple, les chambres ou le gouvernement, et cette irresponsabilité, elle est renforcée par le fait de son immunité face à la justice durant toute la durée de son mandat. Donc on est considérablement éloigné des aspirations démocratiques des républicains de 1789, en ce que le président justement de la Ve gouverne et légifère sans contre-pouvoir, ni contrepartie. C'est la raison pour laquelle on entend dire d'ailleurs que le président, on peut l'appeler le monarque présidentiel. Alors du coup, on assiste à une concentration du pouvoir qui peut s'exercer contre le peuple, et je crois que Claude, tu auras des choses à nous dire là-dessus tout à l'heure, de manière autoritaire et arbitraire, qui bafoue l'état de droit, qui est pourtant, me semble-t-il, l'un des piliers constitutifs de la démocratie. Alors de fait, on assiste à une montée de l'autoritarisme, parce que le président se sent de plus en plus isolé, et donc de l'abus de pouvoir, en ce que l'autoritarisme n'est pas un excès d'autorité, mais bel et bien une dégénérescence de l'autorité, car l'autoritarisme use de la force, tandis que l'autorité est synonyme de responsabilité, et donc forcément de considération de ses concitoyens. Et en même temps qu'on assiste à cet abus de pouvoir, on assiste à une défiance des institutions, doublée d'une colère légitime, liée à la fois à la prise de conscience de confiscation civique et citoyenne. Les citoyens n'ont vraiment plus le sentiment de participer à quoi que ce soit, de la perte de liberté individuelle, de droits fondamentaux, mais aussi elle est liée à la prise de conscience de l'explosion des inégalités économiques et donc des conditions matérielles de vie, qui permettent justement de vivre dignement. Et tout cela s'est rendu possible par le pouvoir et ses abus. Bref, tout le monde voit que l'autoritarisme du pouvoir s'exerce uniquement pour défendre les intérêts d'une caste ultra riche. Et ça, ça ne passe plus. Donc, fini la résignation produite pendant longtemps sur le peuple, qui était anesthésié par une sorte de culte du présidentialisme et qui, du coup, organisait justement l'infantilisme intellectuel. C'est-à-dire qu'on considérait que les gens n'avaient pas le niveau ni les compétences, justement, pour se mêler de leurs affaires politiques. Et donc, toutes ces raisons expliquent pour moi le fait qu'on voit dans les mobilisations sociales un slogan commun à toutes les revendications diverses, c'est le dégagisme, et notamment celui du président. Bref, il y a une volonté farouche de participer à l'organisation et au fonctionnement de l'État. Une fois dit cela, quelles solutions en fait on pourrait apporter. Eh bien, justement, il faut déjà sortir justement le verre dans le fruit, comme je l'ai dit au début de l'explication. Et pour moi, la solution, c'est l'organisation d'une assemblée constituante et donc le passage à une sixième république, et non pas simplement une révision de la Constitution, parce qu'il faut rappeler que depuis le début de la cinquième, la Constitution a été révisée 24 fois, et on voit ce que ça donne. C'est dire que la Constitution, en fait, elle doit retrouver fondamentalement son sens juridique. Rappelons que une Constitution, c'est l'acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. J'insiste bien, et décide de l'ordre sociétal voulu. En particulier, donc, elle consacre des droits et des libertés fondamentaux et définit les modalités de leur protection. Donc, ça tombe sous le sens que ce soit le peuple qui s'occupe de tout cela. Donc, l'organisation d'une assemblée constituante est fondamentale. Alors, évidemment, il reste à en déterminer et à en définir sa composition. Et du coup, cette assemblée constituante, elle permettra de retrouver justement les aspirations démocratiques des républicains de 1789. Cela dit, avant d'imaginer cette assemblée constituante, il existe quand même des outils qui permettent de redonner le pouvoir au peuple, même sous la Ve République. Entre autres, il va y avoir des élections municipales et des propositions d'établir des initiatives citoyennes, et notamment l'instauration du RIC, et donc du RIC municipal. Claude et Vincent, vous avez des petites choses à dire sur le RIC.
Tout à fait. Alors, pour comprendre un petit peu d'où vient le RIC, j'aimerais qu'on commence au niveau de Nicolas de Condorcet, qui, en fait, a contribué à l'introduire dans la Constitution de l'an 1 avec sa publication en français en 1850 dans un hebdomadaire fouriste de l'influent manifeste qui s'intitulait « La législation directe par le peuple et ses adversaires » de Moritz Röttingensohn. Ensuite, ça a été nommé référendum d'initiative populaire jusqu'en 2018 où il a été où le nom qui a été donné c'était référendum d'initiative citoyen et ça a été repris grâce aux gilets jaunes qui s'en sont emparés. Alors bon, malgré son histoire qui est quand même assez lointaine dans le monde francophone, c'est devenu étranger au pays francophone le RIC. C'est-à-dire que la démocratie directe en général, c'est-à-dire que en dehors de la Suisse romande où c'est intégré dans la population que la démocratie plus directe est importante, le RIC est absent des pays francophones, et lorsqu'il est présent, par exemple au Togo ou au Burkina Faso, sa configuration législative le rend inutilisable. Et les quelques fois où on le retrouve en France ou en Belgique, ça reste quand même à des niveaux très locaux et vraiment très marginal dans notre vie politique.
Effectivement, la revendication des Gilets jaunes était centrée sur le RIC. Le RIC est un processus de démocratie directe qui redonne une voix prépondérante au peuple. Et ça, on en a beaucoup besoin. Il permet de voter une loi, une proposition de loi, abroger une loi votée par le Parlement ou un traité, modifier la Constitution ou révoquer un élu. Ça laisse rêveur. Le RIC est facile à mettre en place dans une commune. Cette mesure permet de commencer la révolution citoyenne à l'échelle municipale et de rendre la parole au peuple. C'est rendre concret et immédiat l'exercice de la souveraineté populaire. Actuellement, il est impossible d'organiser un référendum local sans l'approbation du maire, ce qui signifie que les habitants ne peuvent s'exprimer que selon le bon vouloir du monarque local.
Alors le RIC, en fait, c'est une procédure institutionnelle ouvrant à des droits civiques spécifiques. Donc en ce sens, il se situe dans la lignée des démocraties libérales et nécessite une révision constitutionnelle pour être introduit dans un régime politique puisqu'il altère les équilibres des pouvoirs. En revanche, la démocratie participative ne requiert pas que les dispositifs liés ayant une valeur constitutionnelle, ainsi il s'adapte plus facilement au cadre représentatif.
69% des Français se déclarent favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne.
Et oui, tu m'étonnes. Et tout cela expliquant justement la possibilité de redonner une respiration démocratique. Et du coup, c'est précisément reconsidérer l'ensemble des citoyens. Et notamment, moi, ce que je trouve de très intéressant dans le RIC, c'est cette possibilité de révoquer les élus, parce que ça va forcément produire quelque chose de vertueux, en ce que les candidats aux élections seront obligés de proposer, de faire des propositions de programmatiques réalistes et réalisables, en sachant qu'à tout moment, justement, ils peuvent être révoqués. Ça, c'est déjà la première chose. Et le fait que les citoyens puissent participer soit à des propositions de loi, soit même justement en abrogeant certaines lois, montre que du coup il y a un contrôle des citoyens justement sur les élus, l'ensemble des élus, et ça met un arrêt définitif en quelque sorte au fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on change de schéma, c'est-à-dire qu'on passe d'un schéma où le politique prend les décisions et le peuple travaille, un schéma où le peuple prend les décisions et le politique se met au travail pour mettre en action sur le terrain.
Exactement, donc on cesse de partir du haut pour aller vers le bas, mais on fait exactement l'inverse. Et nous y voilà donc en démocratie. Voilà. Alors du coup, effectivement, les mobilisations sont donc clairement liées à une crise de régime politique, on vient de le montrer, mais elles sont aussi l'expression de revendications d'ordre économique, en ce que tout le monde voit l'explosion des inégalités économiques et un refus d'une caste d'ultra riches à la participation de la solidarité nationale, qui est pourtant essentielle à la restauration de nos services publics, notamment, dont on dit d'ailleurs que c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et qui, justement, sont détruits par la logique de la politique austéritaire menée par Emmanuel Macron. Donc d'un côté, on a de plus en plus de pauvres. De l'autre côté, on a une poignée d'individus ultra-riches qui sont extrêmement méprisants vis-à-vis des gens. Et donc, du coup, je pense qu'il faut voir dans la volonté de dégager Emmanuel Macron, pas seulement la volonté de participer à la vie politique, mais bel et bien aussi celle de sortir de cette politique austéritaire qui conduit donc à la destruction des services publics, à la fin des biens communs et à une vie insupportable pour une bonne partie de la population. C'est donc le moment d'écouter justement le deuxième moment de l'interview de Clément, qui explique très bien que les mobilisations sont à la fois d'ordre politique et social.
Et dans la lignée de cette fin aussi de 5e République, il y a la politique appliquée aujourd'hui dans le pays qui base les budgets, donc on est en pleine saison des budgets encore aujourd'hui en octobre, et qui veulent imposer de nouveau un budget austéritaire aux Français, alors que ça a été prouvé maintes et maintes fois par les commissions des finances, par des économistes, etc., que ça ne sera pas la solution à la crise économique que traverse le pays. Il y a eu les deux jours fériés qui ont du coup fait beaucoup de bruit, mais il y a tout ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que les deux jours fériés, c'était un peu un épouvantail pour faire passer encore plus d'austérité au niveau des services publics, continuer la destruction des services publics. Et tout ça fait que l'approche qu'ont les Français des budgets, ils veulent un changement également. Ils veulent changer cette manière de procéder, de retirer toujours plus des jours fériés, des vacances, des fonctionnaires, etc. En fait, ça n'a aucune fin. Si tous les ans, on en enlève encore un petit peu, non, ça ne changera rien au problème actuel. Et il faut se baser sur une politique de relance économique, d'investissement au niveau de l'État, pour pouvoir repartir en fait sur du pouvoir d'achat, beaucoup plus de pouvoir d'achat et une meilleure consommation populaire qui représente quand même 50% des recettes de l'État annuellement.
Et oui, Clément, une fois de plus, à mon sens, a tout à fait raison. Il s'agit effectivement de relancer l'économie pour le peuple. Et je pense que par exemple, là aussi, il y a la possibilité de mettre en place au niveau local, et cela relève d'ailleurs des compétences communales, un retour à ce qu'on appelle les régies publiques. Alors, comment on pourrait faire ? Eh bien déjà, il faudrait établir une revue générale de tout ce qu'on appelle les délégations de services publics au secteur privé, les DSP, et de tous les partenariats publics-privés, les PPP, justement pour pouvoir penser ce plan de retour en régie publique, et évidemment en commençant par les communs essentiels, comme l'eau, la production d'énergie renouvelable, les transports en commun, la restauration scolaire ou la gestion des déchets. Bref, tout ce qui est absolument fondamental, essentiel à une vie digne. Et donc, du coup, les régies publiques devront permettre aux usagers et aux agents de siéger dans les conseils d'exploitation ou d'administration. Donc, on retrouve là bien la possibilité de faire participer les gens et de garantir de cette façon des services publics communaux, donc pour couvrir les besoins essentiels de l'existence, se loger, se nourrir, boire, se déplacer, se cultiver, se soigner. Parce que, tout simplement, l'assurance de ces besoins essentiels de l'existence n'a pas à être au service d'une logique capitaliste, c'est-à-dire une logique du profit. Tous les habitants, mais absolument tous les habitants, pourront donc vivre dignement.
Ça laisse rêveur, ce que tu viens de dire.
Mais c'est réalisable.
Mais
on
y arrivera.
C'est complètement réalisable. C'est juste une question de volonté politique. Alors, comme tu dis, ça laisse quand même rêveur. Et du coup, au vu de l'actualité, Claude, sommes-nous dans une république bananière, régie par des intérêts privés ? Peux-tu dire un petit mot sur comment se sont passées ces mobilisations sociales ?
Oui. Alors, un petit mot sur le ministre démissionnaire, remissionné, mais bientôt redémissionné, Retailleau. Petit bedeau de province, le doigt dans le bénitier et la tête à l'Élysée, c'est surpassé. Il avait prévenu. On nasse, on tape. Ce qui fut fait, partout en France, durant les journées du 10, 18 septembre et 2 octobre, à coups de matraques, grenades lacrymogènes, chars, centaures, canons à eau, les lycéens frappés, humiliés, mis en garde à vue, les syndicalistes cognés dans les cortèges, des députés insoumis poussés violemment malgré l'écharpe tricolore, journalistes frappés, empêchés de rendre compte. Les faits d'armes de la police ne sont pas glorieux. Ils frappent, cognent, abîment les corps sans état d'âme. On les paie pour cela. Qui protège-t-ils ? De qui et de quoi ont-ils peur ? C'est que là-haut, derrière la façade du cirque élyséen, se terrent les riches et les ultra-riches, entourés de leurs courtisans qui vivent des miettes conséquentes qu'ils leur jettent. La taxe Zuckerman, la ligne rouge à ne pas dépasser pour le patronat, qui va appauvrir les multimillionnaires et multimilliardaires, une taxe de 2% sur le patrimoine à partir de 100 millions. Ça va, non ? S'ils ne veulent pas qu'on leur prenne 2%, ils les gardent et nous, on prend le reste.
Est-ce que tu aurais des nouvelles de Monsieur Lecornu ?
Ah, l'actualité se précipite. Le Premier ministre Lecornu, depuis le 9 septembre, essaie de constituer son gouvernement à coups de rencontres médiatisées avec les partis politiques. Dimanche 5 octobre, annonce de la composition du nouveau gouvernement avec les mêmes bras cassés. Tout ça pour ça. Il est temps que les partis d'opposition se réveillent. Le budget Lecornu est l'héritier direct des budgets Bayrou, Barnier, budget austéritaire, qui creusera encore plus les inégalités. Il faut censurer ce gouvernement. En juillet 2024, le peuple souverain a voté, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, Macron a considéré ce résultat avec son mépris habituel, il n'en a pas tenu compte. Vive la démocratie à la sauce Macron. Dernière nouvelle, toute fraîche, Lecornu donne sa démission, aujourd'hui acceptée par le président de la République. Tu parlais de République bananière, on est dedans. Après le parti des honnêtes gens, Bruno Retailleau lance un nouveau slogan, la France des casseroles. Prix d'excellence au multirécidiviste Nicolas Sarkozy pour l'ensemble de son œuvre.
Monsieur Estrosi se bat contre la délinquance et aujourd'hui il la glorifie.
Il glorifie la délinquance en col blanc. Le maire de Nice donnera le nom de Nicolas Sarkozy au parvis de l'hôtel des polices nationales et municipales, excusez-moi, c'est très drôle, qui lui réserve plutôt une cellule à son nom. Pendant ce temps-là, le Secours populaire alerte sur la pauvreté qui s'enracine et gagne du terrain partout en France.
Alors là, on ne part pas en croisière malheureusement, mais on va résister.
La Flottille de la Liberté est une coalition internationale de navires civils cherchant à briser pacifiquement le blocus israélien de Gaza. Elle réunit des militants, des médecins, des artistes et des défenseurs des droits humains venus du monde entier pour soutenir la population palestinienne. Elle a navigué le plus possible près des côtes de Gaza. L'armée génocidaire d'Israël a intercepté les bateaux dans les eaux internationales. Un seul bateau a pu s'avancer à 16 km de la côte de Gaza avant d'être stoppé. C'est un crève-cœur. de voir l'espoir déçu, cette main tendue vers le peuple de Palestine qui se fracasse contre la logique meurtrière de Netanyahou. Des rassemblements en soutien avec la flottille se sont organisés partout en France, à Aubenas, à 18h30, à l'Agora, 80 personnes étaient présentes. Prise de parole de l'association France-Palestine Solidarité et déambulation dans les rues d'Aubenas. Je voudrais citer Victor Hugo. « Il me convient d'être avec les peuples qui meurent, je vous plains d'être avec les rois qui tuent. »
Tout est dit avec Victor Hugo, effectivement. Bah, merci Claude, hein, tu justifies avec ta chronique vraiment la nécessité de redonner le pouvoir aux gens et de justement redonner du sens à la démocratie, de la faire réexister. Alors justement Vincent, tu avais quelque chose à nous dire. En nous parlant de l'engagement d'un groupe français qui a sorti un album, et qui a participé à un album à l'occasion des 130 ans de la CGT.
Tout à fait, aujourd'hui on va parler d'un disque, mais pas n'importe lequel, un album qui ne se contente pas de faire danser les oreilles, mais qui résonne avec plus d'un siècle d'histoire ouvrière, de lutte sociale, de fraternité et d'espoir. Car oui, la CGT fête ses 130 ans, et pour l'occasion, un album musical a vu le jour. Alors bien sûr, on pourrait se dire encore un disque commémoratif. Mais non, ici, il ne s'agit pas de poussière d'archives ou d'un folklore figé. Cet album, c'est une passerelle entre passé et présent. Il fait revivre les grandes chansons du mouvement ouvrier, tout en les réinventant, parfois modernisées. Et des titres tout à fait inédits viennent s'y mêler, mais toujours habités par la même énergie, celle de la lutte collective. On y retrouve des airs qui ont marqué les mémoires populaires, telles que l'International, El Pueblo Unido ou encore Le Pieux. Mais aussi des créations plus récentes, qui rappellent que la chanson militante n'appartient pas qu'au vieux manuel d'histoire. C'est une histoire qui brasse les générations, les styles, les voix. Des artistes comme Corinne Maziero, Kali, ou encore Planète Boom Boom, ou Noé Préchoff, qui prêtent leur talent pour un patrimoine musical qui, finalement, est aussi un patrimoine politique et humain. Et ce n'est pas anodin, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la musique a toujours été une arme. Une arme certes pacifique, mais redoutablement efficace. Chanter ensemble, c'est respirer ensemble. C'est se rassembler, c'est s'encourager. Dans les cortèges, les manifestations, les grèves, les chansons ont porté les colères et les espoirs. Et elles ont soudé les corps. Elles ont tenu chaud au cœur. Alors cet album des 130 ans de la CGT, c'est donc bien plus qu'un disque. C'est une mémoire vivante, un fil rouge entre celles et ceux qui luttent hier pour la journée de 8 heures et ceux qui aujourd'hui se battent pour ne pas travailler jusqu'à l'épuisement. C'est une preuve aussi que la culture est loin d'être un supplément d'âme. Et que, au contraire, c'est au cœur des combats sociaux, parce qu'un peuple qui chante, c'est un peuple qui résiste. Et justement, parmi les artistes qui donnent de la voix dans cet album, il y a un collectif bien particulier, les Goguettes. Alors, les Goguettes, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des chansonniers des temps modernes. Leur spécialité, prendre des airs connus et les détourner avec humour, impertinence. Pour commenter l'actualité sociale et politique. Il manie la satire avec un sourire en coin, mais derrière la blague, il y a toujours une critique affûtée et une envie de secouer les consciences. En effet, les Goguettes, c'est un peu l'héritage des cabarets populaires, un art de rue qui s'invite dans nos oreilles. Il nous rappelle que la lutte peut aussi passer par le rire et que parfois, chanter avec ironie est une manière encore plus forte de résister. Alors on vous plonge dans cette énergie festive et combative. On va écouter pour la fin de cette émission ensemble, une chanson qu'ils ont créée pour cet album qui s'intitule « Syndiqué, tu mourras pas » où avec brio, ils nous montrent ce que pourrait donner une manifestation du MEDEF.
Voilà, c'est fini, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous.
Il y a eu Gattaz avant moi,
il y a eu Célière avant lui,
le gratin du patronat, les cadors de l'industrie.
On en a plein les fesses d'être matraqué par l'État
qui accapare nos richesses pour engraisser les parias.
Je chanterai 10 fois, 100 fois,
j'hurlerai pendant des mois,
je crierai sur tous les toits, entre les huîtres et le foie gras.
Assister, assister, tu m'auras pas.
En France, y a bien trop de normes, soyons plus libertariens.
Et entamons des réformes pour secouer les bons à rien.
Vivement que grâce à l'IA, y ait plus besoin de salariés.
Hâte de voir les syndicats chialer sur Tchat CGT. Je chanterai 10 fois, 100 fois,
j'hurlerai pendant des mois,
je crierai sur tous les toits,
au volant de ma Tesla.
Syndiqué, syndiqué, tu m'auras.